الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة السادس من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الثالث في فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله. Nous sommes le 27 décembre 2014 et ce soir nous entrons dans le troisième cours de l'étude de l'explication ou de la compréhension des différentes formules d'invocation d'Allah Azza wa Jal et de rappel. Nous sommes actuellement en train d'étudier les formules qui sont prononcées par les musulmans aux deux extrémités du jour, le matin et le soir. La dernière fois, nous en avons vu trois. Nous avons vu Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Nous avons vu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Et ensuite, nous avons vu la meilleure façon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال, « كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il était au soir et au matin, nous voici au soir, et la royauté revient à Allah. Louange à Allah. Il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah seul et sans associé. À lui la royauté et la louange. Il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien que contient cette nuit et le bien venant après elle. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que contient cette nuit et le mal venant après elle. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre la paresse et la sénilité. Nous allons l'expliquer. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre un châtiment en enfer et un supplice dans la tombe. Et lorsqu'il était au matin, il disait « Nous voici au matin et la royauté revient à Allah ». Cette invocation a une très grande importance et le musulman doit l'apprendre, comprendre ce qu'elle veut dire et essayer et veiller à la réciter chaque matin, chaque soir. Lorsqu'il arrive au matin, il utilisera les termes « Asbahna » qui veulent dire « Nous sommes au matin ». Lorsqu'il arrive au soir, il utilisera le terme « Amsayna » qui veut dire « Nous sommes arrivés au soir. Vous allez voir pourquoi cette invocation est importante. C'est une invocation qui est bénie et utile. يَحْسُنُ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتِدَاءً بِهَدْيِهِ الْقَوِيمِ. Le musulman doit essayer de l'apprendre et de la donc, mémoriser pour la répéter chaque matin et chaque soir. Ceci afin de prendre comme guide le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit dans cette invocation « Amsayna wa amsal mulku lillah ». Nous voici au soir. Lorsque l'on dit « Amsayna », c'est-à-dire nous sommes arrivés au soir. « Asbahna », nous sommes arrivés au matin. « Al-masa » « Al-sabah ». Nous voici au soir, c'est-à-dire nous sommes arrivés au soir. Et la royauté revient à Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah. C'est-à-dire que ce soir, nous entrons dans une nouvelle soirée grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette nouvelle soirée, la royauté revient à Allah, tout comme elle lui revient dans toute soirée et dans toute matinée. Mais c'est une façon d'exprimer ta reconnaissance à Allah chaque fois que tu arrives au soir. Tout comme c'est une façon de l'exprimer chaque fois que tu arrives au matin. Ay, dakhalna fil masa, wa dakhala fihi al mulku ka'inan lillahi wa muhtassan bih. Nous sommes entrés dans la soirée et la royauté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est comme si que celui qui prononce cette parole en réalité reconnaît عَرَفْنَا وَأَقْرَارْنَا بِأَنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ وَالْحَمْدَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ. Il reconnaît que la royauté revient à Allah. Le soir arrive, il profite de cette occasion pour reconnaître que la royauté revient à Allah et la louange à lui seul. فَالْتَجَأْنَا إِلَيْهِ وَحْدَهُ. C'est pour cela que nous cherchons refuge chez lui. وَاسْتَعَنَّا بِهِ. Et lui demandons son aide. Vous voyez que ces paroles ne sont pas des simples paroles qui n'ont pas de sens. Celui qui prononce cette phrase, c'est comme si qu'il disait « Ce soir, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que je suis ici. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a fait arriver dans cette soirée. J'en profite pour reconnaître que la royauté lui revient. Et c'est lui le digne de louange. Je place ma confiance en lui et lui demande mon aide. » Imaginez-vous quelqu'un qui démarre sa soirée comme ça. وَخَصَصْنَاهُ بِالْعِبَادَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَشُكْرِ لَهُ. Nous n'avons adoré qu'Allah et nous lui exprimons notre reconnaissance. وَلِهَذَا أَعْلَنَ بَعْدَ ذَلِكَ إِيمَانَهُ وَتَوْحِيدَهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. C'est pour cela que tout de suite après cette première phrase, tu mets en avant la reconnaissance que tu as de l'unicité d'Allah en disant « Il n'y a point de divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah, seul et sans associé. » Et cette phrase est bien la phrase la plus importante. La ilaha illallah, c'est bien la phrase la plus importante. Et donc il convient aux croyants, aux monothéistes, quand il arrive au matin, de la répéter. Et quand il arrive au soir, de la répéter. Elle signifie « La ma'bouda bi haqqin illallah ». Il n'y a aucune divinité méritant réellement l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons remarquer ici, comme le dit le shir, nous devons remarquer que cette parole est composée de deux piliers. La parole la ilaha illallah mabniyatun ala ruknain, est bâtie sur deux piliers sans lesquels elle ne peut avoir l'importance qu'elle a. La yatahaqqaqu at-tawhidu illa bihima. Sans ces deux piliers, on ne peut pas réaliser et concrétiser le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces deux piliers? An-nafyu wal-ithbat. La négation et l'affirmation. La négation dans la parole la ilaha. Nulle divinité ne mérite l'adoration. Tout ceci est une négation. L'affirmation dans la deuxième partie, illallah, sauf Allah. C'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et donc, lorsque tu nies, puis tu affirmes, lorsque tu nies le droit de l'adoration, c'est une négation générale et globale. Tu as nié le droit à l'adoration générale et globale à quiconque. Et lorsque tu l'as affirmé, c'est une affirmation particulière. Tu l'as affirmé particulièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui existe n'a pas le droit à l'adoration. Seul Allah a le droit subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tout de suite après tu dis wahdahu la sharika la. La parole wahdahu, c'est-à-dire seul, ta'kidun lil ithbat, c'est une confirmation de l'affirmation. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration à part Allah. La parole à part Allah, c'est une affirmation que seul Allah a le droit à l'adoration. Quand tu dis wahdahu, seul, tu confirmes que tu crois vraiment ce que tu as affirmé. Tu confirmes que tu crois vraiment que c'est Allah qui mérite l'adoration. La sharika là, nul associé, est une confirmation de la négation. Donc, quand tu dis sans associé, c'est comme si que tu as dit la ilaha. Quand tu dis wahdahu, c'est comme si que tu as dit illallah. C'est-à-dire que les deux phrases suivantes servent à confirmer ce que tu veux dire. Pour résumer, tu as dit, nulle autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite l'adoration. Je le dis, j'y crois et je le confirme. Il est le seul à mériter l'adoration et il n'a aucun associé subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit, هذا تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وتعالية لشأنه. Ce qui veut dire une confirmation suivie d'une autre confirmation pour montrer l'importance de la place du tawhid. Puis lorsque tu as reconnu l'unicité d'Allah à travers ces premières paroles de cette invocation, tu as fait suivre cela par la reconnaissance que la royauté, la louange et la puissance sont à Allah tabaraka wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté, à lui la louange, et il a puissance sur toute chose. On le traduit des fois par il est capable de toute chose. La meilleure traduction, c'est de dire il a puissance sur toute chose. C'est ce qu'on dit, il est omnipotent. C'est-à-dire que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a atteint toute chose et rien n'échappe à sa puissance subhanahu wa ta'ala. Il y a donc trois choses. Tu reconnais la royauté, la louange et la puissance. فَالْمُلْكُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَبِيَدِهِ سُبْحَانَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. La royauté tout entière est à Allah. D'ailleurs, le royaume tout entier est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la louange. وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لَهُ مُلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا. Allah est celui qui mérite la louange et qui la possède. Et c'est lui qui a la capacité et la puissance sur toute chose. Rien ne sort de sa puissance. D'ailleurs, il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Le verset 44 de Sourate Fatir, traduite par le Créateur, il dit ce qui veut dire « Et rien ne pourrait réduire à l'incapacité Allah, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et certes, c'est lui, le Tout-Puissant, l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Les habitants des cieux et de la terre, avec leur grand nombre, même s'ils s'unissaient tous, depuis le premier au dernier, en réalité, ils ne sont que des créatures d'Allah, azza wa jal. Rien ne peut réduire Allah à l'incapacité. Rien ne peut empêcher Allah, tabaraka wa ta'ala, de faire ce qu'il veut faire, de décréter ce qu'il veut décréter. وفي الاتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة فهو أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة ثم بدأ بعد ذلك بذكر مسألته وحاجاته. Voyez que pour l'instant on n'a pas commencé à demander à Allah. Pour l'instant il n'y a pas de demande, n'est-ce pas? Tu affirmes que tu es au soir, grâce à Allah, que la royauté, la puissance, la louange reviennent à Allah. Pour l'instant, tu n'as rien demandé. Eh bien, c'est justement une des meilleures façons d'invoquer Allah. De commencer par louer Allah. De commencer par vanter les attributs d'Allah, la puissance d'Allah, de reconnaître tout ceci. Seulement après, tu vas demander à Allah. Car cela sera plus prompt pour qu'Allah réponde à ton appel. Et pour qu'il exauce ta demande, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ceci que tout de suite après, il y a la demande qui est Rabbi as'aluka khayra hadhihi layla wa khayra ma ba'daha. C'est-à-dire, ô Seigneur, Rabbi, Rabb, c'est un nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui vient du terme tarbiya, l'éducation. Allah, subhanahu wa ta'ala, est notre Seigneur dans le sens où tout comme il est notre créateur, notre maître, eh bien, c'est lui qui nous a éduqués, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand tu invoques Allah, tu dis Rabbi, ô toi qui m'as créé, toi qui es mon maître, toi qui m'as éduqué. Il t'a éduqué avec deux façons. La première, il t'a éduqué dans ta religion, il t'a guidé à l'islam, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Ceci est une éducation. Deuxièmement, il t'a éduqué dans la vie de tous les jours, en t'accordant nourriture, vêtements et différents besoins. C'est une éducation qui vient d'Allah. Donc lorsque tu vas lui réclamer, tu vas dire « Rabbi, toi qui m'as éduqué, toi mon créateur, toi mon Seigneur, as'aluka khayra hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha. Je te demande le bien que contient cette nuit et le bien venant après elle. » Tu arrives au soir, tu te prépares. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de cette nuit pour toi une nuit bénie, une nuit pleine de bien. Et aussi, tu en profites pour lui demander qu'après cette nuit aussi, il t'ajoute le bien que tu lui as demandé. Ay as'aluka khayra ma aradta wuqu'ahu fi hadhihi al-layla lis-salihin min 'ibadik min al-kamalat adh-dhahirati wal-batina wa min al-manafi' ad-diniyyati wad-dunyawiyya. Wa khayra ma ba'daha ay ba'daha min al-layali. C'est-à-dire, ô Seigneur, je t'implore de m'accorder le bien que tu auras voulu pour cette nuit pour tes serviteurs pieux. Allah Azza wa Jal veut du bien pour ses serviteurs pieux. Lorsque tu arrives dans cette nuit, tu dis « Oh Allah, je te demande de m'accorder le bien que tu auras voulu pour les serviteurs pieux cette nuit. » Que ce soit les biens apparents ou cachés. Que ce soit les biens mondains ou religieux. « Oh Allah, dans cette soirée, je te demande tous les biens. » Mondains, santé, argent, enfants, famille, préservation, bénédiction et autres, guérison, religieux, guidé, pardon, acceptation et tout ce qui est du cadre religieux. Et le bien venant après elle. Car le musulman ne se contente pas quand il demande à Allah Azza wa Jal d'un peu. Il demande à Allah tout ce qu'il peut demander, subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ignorent qu'ils doivent demander à Allah tout. Et quand nous disons tout, nous disons vraiment tout avec ce que ce mot signifie. Si bien que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, lorsqu'ils avaient la ficelle de leurs sandales qui se déchirait, ils levaient leurs mains au ciel et ils demandaient « Oh Allah, remplace-moi par une ficelle meilleure et plus solide. » Pourquoi ? Parce que c'est ça le vrai tawhid. Le vrai monothéisme que tu manifestes, c'est de reconnaître que toute chose vient d'Allah. Quand bien même cette chose est infime au regard des gens, toi tu sais qu'elle vient d'Allah. Eh bien c'est comme ça que tu as connu Allah, tabaraka wa ta'ala. « Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla » et je cherche protection auprès de toi contre le mal que contient cette nuit et le mal venant après elle. Une fois que tu as demandé le bien, ce n'est pas suffisant, car le mal existe et tu as besoin d'en être protégé. Et pour ce faire, il faut que tu demandes à celui qui te protège du mal qui est Allah subhanahu wa ta'ala. أي وأعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها min shurur zahira aw batina. C'est-à-dire, je me réfugie auprès de toi et viens chercher ta protection contre le mal que tu auras décrété cette nuit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète le bien, il décrète aussi les choses qui sont du mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il décrète, il est sage. En réalité, ce qu'Allah fait n'est que bien. Parce que tout ce qu'Allah décrète renferme une sagesse. N'est-ce pas que beaucoup de gens ont connu le bien en passant par un mal ? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce cheminement. Et ce n'est pas pour rien. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de demander la protection d'Allah contre le mal qu'il aura voulu dans cette soirée. Que ce mal soit apparent ou caché. Le mal peut être apparent, maladie, il peut être apparent, pauvreté, perte des biens, perte des proches, il peut être aussi caché. Maladie intérieure, les gens qui sont anxieux, qui se sentent tout le temps mal, mais rien ne se voit en apparent. Eh bien, ce mal, seul Allah est capable de préserver le serviteur. Puis, Rabbi a'oudhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre la paresse et la sénilité. La sénilité, c'est un mot que je ne connais pas, mais je sais ce qui est voulu par le hadith. C'est le vieillissement mauvais. Le vieillissement mauvais, lorsque la personne commence à vieillir, beaucoup de maladies la touche, elle perd la mémoire, elle a des comportements mauvais, elle a un vieillissement qui est mauvais. Il existe des personnes qui sont vieilles au moment où je vous parle, mais qui pourtant ont toutes leurs raisons. Et elles sont encore capables de réfléchir, de trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ce qui est voulu ici. Je cherche protection près de toi contre la paresse. Ce qui est voulu par la paresse, c'est ce qui est connu de nous tous, malheureusement. C'est la lourdeur que l'âme trouve à faire le bien, alors qu'elle en a la capacité. Il y a ce qu'on appelle al-kasal, la paresse, et il y a ce qu'on appelle al-ajz, l'incapacité. Au final, le paresseux et l'incapable ne vont pas faire le bien. Sauf que l'incapable est excusé. Car la raison de l'incapacité, c'est qu'il ne peut pas. La raison qu'il ne fait pas le bien, c'est qu'il est incapable. Alors que le paresseux, lui, est capable. Mais il trouve une lourdeur dans son âme, dans son ego. Son ego lui dit, reste allongé, ne te lève pas pour l'adoration que vous connaissez tous, malheureusement. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الْعَاجِزِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ وَالْمُرَادُ بِسُوءِ الْكِبَرِ ce qui est voulu par la sénilité, ou bien le mauvais vieillissement, أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. C'est-à-dire ce qui arrive à cause du vieillissement, comme perte de la raison, comme confusion. Vous voyez bien des gens qui, comme ils sont, quand ils sont atteints par l'âge très avancé, ils mélangent les choses, ils font des confusions, ils n'arrivent plus à utiliser leur raison. Imagine-toi que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est une invocation à dire le matin et le soir, c'est-à-dire deux fois par jour. Tous les jours de ta vie, si Allah te l'accorde, tous les jours de ta vie, deux fois, tu demandes, oh Allah, préserve-moi de la paresse, préserve-moi de la sénilité. Et Allah t'exauce. Et ceci, vous le voyez chez, à titre d'exemple, on le voit chez les ulama, chez les savants. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la santé des savants de l'islam, de la sunna. Voyez un peu certains savants. Je vous cite des noms. Je vous cite des noms. Je vous donne l'exemple de Al-Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Matrali, Hafidahullah, un grand savant de Mecca, qui a atteint plus de 80 ans et qui est encore en train d'écrire des livres. Subhanallah. Al-Sheikh Hassan ibn Muhammad, Al-Sheikh Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouq al-Banna, Hafidahullah, le grand savant de la Sunna, le plus grand savant de la Sunna d'Égypte. Aujourd'hui, il a presque 85 ans. Et vous l'appelez, il parle avec vous comme si qu'il a 40 ans, fort dans son raisonnement. Abdul Muhsin al-Abbad, qui s'approche des 80 ans. Salih al-Fawzan, qui s'approche des 80 ans. Salih al-Luhaydan, qui s'approche des 80 ans. Et la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. C'est juste pour vous dire, regardez ces gens-là, lorsque vous les voyez, par Allah, ils ont toutes leurs raisons. Ils ont toutes leurs raisons. Ils parlent avec vous dans tous les sujets. Pourquoi ? Parce que ce sont les gens qui ont protégé la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Et eux sont ceux qui sont le plus motivés dans les invocations du matin et du soir. Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, l'auteur du livre qu'on est en train de lire, si vous le voyez, Wallahi, si vous le voyez, je pense que vous allez lui donner 40 ans, alors qu'il a presque 60 ans, subhanallah. Vous savez ça? Naam. Presque, mais pas encore. Et donc, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils invoquent Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils demandent à Allah, tabaraka wa ta'ala, constamment de les préserver. Et celui qui, toute sa vie, deux fois par jour, demande à Allah de le préserver contre ces choses-là, comment il va être si Allah l'exauce? À condition, cher frère, de comprendre ce que tu dis. C'est pour ça que je vois que la plupart des frères n'ont pas les livres de dua. Deuxièmement, ils n'écrivent pas. Et je ne sais pas comment vous allez vous en rappeler. Et là, c'est très important. Concernant les livres, Inch'Allah ta'ala, on vous les apportera. Et pour le reste, c'est à vous de venir avec de quoi écrire. Wa qawluhu ensuite, Rabbi a'udhu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre un châtiment en enfer et un châtiment ou un supplice dans la tombe. Astajiru bika ya Allah min an yanalani 'adhabun nar wa 'adhabul qabr. Je cherche ta protection contre le fait d'être touché par le châtiment du feu et celui de la tombe. Pourquoi est-ce qu'ici nous avons, enfin le prophète alayhi salatu wassalam a cité particulièrement ces deux châtiments, celui du feu et celui de la tombe? Et il y a beaucoup de châtiments qui arriveront le jour du jugement dernier, qui ont été cités dans les hadiths, car ils sont immenses. Car la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui réussit l'étape de la tombe, le jour où les deux anges viendront et diront, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Si tu réponds à ces trois questions parce que dans cette vie, tu vivais avec la conviction islamique pure que tu as apprise et mise en pratique, tu répondras à ces questions, toutes les autres étapes de l'au-delà, jusqu'au jour dernier, jusqu'au jugement, jusqu'à l'entrée au paradis, seront de plus en plus faciles. Par contre, si tu rates cette demeure, cette étape, alors les autres deviendront de plus en plus difficiles. Puis, la finalité, l'étape dernière, c'est le feu, pour ceux qui sont châtiés. Donc, ça commence par la tombe, ça termine par le feu ou le paradis. Nous demandons à Allah de nous accorder le paradis. Nas'alullah al-Jannah. Et donc, vous voyez que le prophète, alayhi salatu wassalam, demande à Allah de le protéger contre le premier mal et le mal final. Donc, s'il te protège du premier mal et du mal final, il t'aura protégé, subhanahu wa ta'ala. Voici ce qui en est pour cette invocation. Et lorsque tu arrives au matin, il sera bon de dire Asbahna wa Asbaha al-Mulku lillah, c'est-à-dire nous voici au matin et la royauté revient à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les invocations à dire le matin et le soir, le fait de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois. Subhanallah wa bihamdi 100 fois. Combien de temps ça prend? Allah Azza wa Jal nous l'accorde. L'imam Muslim rahimahullah a cité dans son recueil de hadith selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi'afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi. C'est-à-dire, celui qui dit le matin et le soir, Subhanallah wa bihamdi, nous l'expliquerons, 100 fois, Personne ne viendra le jour de la résurrection avec une meilleure œuvre que la sienne, si ce n'est quelqu'un qui a dit autant que lui ou davantage. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Ça te prend peut-être même pas une minute. Et regarde la récompense. Tu viens le jour du jugement dernier et personne n'a dit, personne ne vient avec une action pareille à la tienne, sauf celui qui en a fait plus. Subhanallah. Pourquoi encore une fois? Parce que cette parole n'est pas qu'une parole. Ce ne sont pas que des mots que la langue prononce. Le sens de ces paroles est très profond. وفي هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والحمد. Nous voyons donc dans cette évocation, lorsque nous disons évocation, nous parlons des paroles de rappel dans lesquelles il n'y a pas une demande. Et lorsque nous disons invocation, nous parlons des paroles de demande. Vous comprenez? Donc, il dit que celui qui prononce cette parole a cette récompense car il s'y trouve la parole subhanallah et la parole alhamdulillah. Quant à la parole subhanallah, il est temps de la comprendre. Il est temps de comprendre ce que nos langues prononcent. Le mot subhanallah est un mot qui, le mot subhan est un mot qui vient du verbe sabaha. Sabaha, dans son langage de base, c'est le fait de s'éloigner. Le fait de s'éloigner de quelque chose. Lorsque le musulman dit Subhan Allah, il veut en réalité dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de tout manquement et de tout défaut. Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire que tu reconnais qu'aucun défaut n'est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est atteint d'aucun manquement. Il n'oublie pas, il ne périt pas, il ne faiblit pas, il ne fait pas d'injustice, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il ne se fatigue pas, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Il est parfait.
Il ne dort pas.
Il ne somnole pas, il ne se repose pas. Alaykoum salam. Il est parfait. Alaykoum salam. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Subhanallah, cette phrase sert à englober tous les défauts possibles, tous les mots possibles, à les éloigner d'Allah. Lorsque tu dis Subhanallah, ce n'est pas qu'une simple parole. C'est comme si que tu as dit Allah n'a pas faim, n'a pas soif, ne dort pas, n'est pas faible, n'oublie pas, ne fais pas d'injustice. Et comme si que tu te mettais à citer toutes les mauvaises choses pour dire au final qu'Allah est loin de toutes ces choses-là. C'est pour ça que le verbe nager dans la langue arabe c'est sabaha ou sabiha, sabaha yasbahu. Celui qui nage, nous disons yasbahu. Pourquoi? Parce que ça a le même sens de base. Celui qui nage, plus il nage et plus il s'éloigne. Également, comme a dit le Cheikh Atiyah, rahimahullah ta'ala, ce grand savant égyptien qui était enseignant à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Atiyah Salim, rahimahullah, l'élève de l'imam al-Shinqiti, et qui a expliqué les 40 hadiths, et lorsqu'il a expliqué la parole subhanallah, il a dit, celui qui nage, il s'éloigne de la perte. Il s'éloigne de la noyade. Plus il nage, plus il s'éloigne de la noyade. Eh bien, quand tu dis Subhanallah, c'est pour dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est loin de tout défaut. C'est pour cela que tu retrouves dans le Coran que quand les chrétiens ont dit qu'Allah a un enfant, qu'est-ce qu'Allah leur a répondu? Subhanahu. Wa qalu ittakhadha ar-Rahmanu walada subhana. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Allah aurait pu dire, non, il n'a pas d'enfant. Il a répondu avec la parole du tasbih, qui sert justement à éloigner Allah de tout défaut, subhana. Comme si, nous les croyants, on peut dire, par exemple, lorsque l'on entend que les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les athées, et les adeptes de n'importe quelle autre religion, qui sont toutes fausses, vont décrire Allah par des choses qui sont mauvaises, nous disons Subhanallah, Subhanallah. Impossible, Allah est loin de tout ça, Allah est pur. Subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de la parole Subhanallah. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, والحمد فيه إثبات الكمال له سبحانه وتعيين المئة لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا. Lorsque tu dis Alhamdulillah, Alhamd, c'est ذكر المحمود وصف المحمود أو ذكر المحمود ووصف المحمود محبة وتعظيما. C'est le fait de citer celui que tu évoques avec amour et vénération. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu cites Allah en montrant que tu ressens pour lui le plus grand amour et la plus grande vénération. Et c'est aussi une parole de reconnaissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah est loué pour deux raisons. Il est loué à cause de la perfection de ses noms, de ses attributs, de la perfection de ses actes, de la perfection qu'il a, Azza wa Jal. Deuxièmement, il est loué à cause de la bienfaisance qu'il a envers ses serviteurs et du bien qu'il leur donne. Et tu verras, si tu médites, qu'à chaque fois que tu dis Alhamdulillah, plus encore, à chaque fois que tu trouves la parole Alhamdulillah dans le Coran, eh bien, la chose pour laquelle Allah se loue, c'est une de ces deux choses que nous venons de citer. Un exemple. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ce qui veut dire, toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre, dans lequel il n'y a point de tortuosité. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Il n'y a rien de maladroit. Il n'y a rien de tout cela. Allah s'est loué pour cette raison qui est la révélation de son livre. La révélation de son livre est un bienfait pour ses serviteurs. Car avec cette révélation, les serviteurs savent comment vivre. Allah Azza wa Jal a dit, par exemple, هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Ce qui veut dire, c'est lui le vivant par excellence. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration à part lui. Invoquez-le donc en lui vouant le culte exclusif. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il vient de citer sa perfection. Quelle est sa perfection? C'est lui le vivant par excellence. On va tous mourir. Et lui ne mourra jamais, Azza wa Jal. Il est parfait. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est une perfection. Pour cette perfection, on le loue. Et à chaque fois que tu trouves Alhamdulillah dans le Coran, soit Allah se loue et va citer après un bienfait pour ses serviteurs, ou bien il va citer après la perfection de ses noms et de ses attributs. Tabaraka wa ta'ala. Ici, on a le nombre de 100 et on ne sait pas. Il y a une sagesse qu'on ne connaît pas et on ne doit pas chercher à poser des questions qui nous sont d'aucune utilité. Allah Azza wa Jal a voulu qu'on prononce cette parole 100 fois le matin et le soir. Subhanallahi wa bihamdi. D'ailleurs, dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre maximal, on peut le dire, d'invocation, c'est 100. Il n'y a rien après 100, il n'y a rien plus de 100. Donc toutes les invocations qu'il faut dire 500 fois, 300 fois, 1000 fois, 7000 fois, qu'on retrouve chez les gens du soufisme, elles sont à bannir. Elles n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. Allah n'a pas demandé à ses serviteurs de les faire, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout musulman sincère doit suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal. Wa sunnatu an ya'qida hadhihi at-tasbihat bi yadihi ta'assiyan bihi sallallahu alayhi wa sallam la bi subha aw al-ala aw nahwi dhalika mimma yaf'aluhu kathirun minan nas. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. Le cheikh dit, il fait partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prononcer ses paroles avec les doigts, écoutez bien, avec les doigts, pas avec le chapelet que vous voyez ici. Il dit que ce soit avec le chapelet ou avec l'appareil où il y a chiffre 1, il appuie, ensuite 2, il appuie, 3, il appuie, et ainsi de suite. Ces choses que font beaucoup de gens. Il est rapporté dans le recueil de l'imam Abu Daoud que Abdullah ibn Amr a dit, c'est un compagnon, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononcer le tasbih c'est la parole subhanallah, avec sa main droite, c'est-à-dire avec les doigts de la main droite. Ceci est la sunna. Quant à ce que vous voyez ici, même si vous le voyez partout, même si vous le voyez dans tous les mosquées, même si vous le voyez chez beaucoup de gens, ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est le meilleur homme. Le prophète a été envoyé par Allah azza wa jal. C'est lui qui nous a enseigné la religion. C'est lui qui nous a enseigné le bien. Quand il s'asseyait et il disait subhanallah, il utilisait ses doigts. Subhanallah, 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 subhanallah. Il n'utilisait pas ça, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons le suivre. Nous devons le suivre. Et malheureusement, comme nous sommes ignorants et que nous n'apprenons pas notre religion, nous pensons que c'est bien. Et des fois, lorsque on va vouloir enseigner à des musulmans qui ne connaissent pas que ce n'est pas bon, ils vont dire, j'ai vu mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, dans mon village, dans mon pays, on a toujours fait ça. Ce que tu dis, c'est nouveau. Non. C'est ce que tu fais qui est nouveau, car le prophète ne l'a jamais fait. Et à chaque fois que tu passes le temps et les journées, tu vas apprendre des choses. Et quand tu vas apprendre des choses, eh bien, tu devras les mettre en pratique, car c'est là qu'on verra le véritable amour que tu as pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète est assis à côté de toi, aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, le soir arrive, le matin arrive, il s'assoit à côté de toi et il fait subhanallah, subhanallah, subhanallah avec ses doigts. Est-ce que tu vas venir avec le chapelet et tu vas être capable de t'asseoir à côté de lui et de faire subhanallah, subhanallah, subhanallah? Tu vas être capable de le faire? Pourquoi le fais-tu après sa mort? Alayhi salatu wassalam. Certaines personnes diront, oui mais ce n'est pas important et c'est pareil. La réponse est non, ce n'est pas pareil. Car si c'était pareil, pourquoi le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète connaît un bien et ne le fait pas? La religion d'Allah est simple, chers frères. La religion d'Allah, elle est simple. Apprenez à utiliser vos doigts. Apprenez à suivre la guidée de votre prophète, alayhi salatu wassalam. En plus de ça, lorsque vous utilisez le chapelet, vous n'êtes pas concentré. Parce que vous êtes sûr d'avoir le bon nombre. Donc comme vous êtes sûr, parce que vous voyez ici le plus grand, vous êtes sûr ici, il y en a 11. Donc ça devient facile. Subhanallah, 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 subhanallah. Et tu tournes ta tête et tu n'es pas concentré. Et la plupart des gens, malheureusement, ne savent même pas ce que ça veut dire, subhanallah. Donc premièrement, ils ne peuvent pas se concentrer car ils ne connaissent pas le sens. Et plus encore, à cause de ça, ils ne se concentrent pas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Comment il va se concentrer? Par contre, si tu le fais avec tes doigts, tu es obligé de te concentrer, sinon tu vas te tromper dans le nombre. Et ça, c'est la baraka de la sunna. Et ça, c'est le manque de baraka, car on ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que toute personne qui m'a entendu aujourd'hui va se remettre en question et ne plus utiliser le chapelet. Wa min al-ma'loum ila da kulli muslim anna khayra al-hadi هو هديه صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit, il est connu chez tout musulman que la meilleure guidée est la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il fait du'a, invocation, il dit, رزقنا الله وإياكم التمسك بسنته ولزوم نهجه. Qu'Allah nous octroie le suivi de sa sunna et l'accrochement à sa voie et le suivi de cette race, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les invocations du matin et celle du soir, celle que nous a encouragé de prononcer notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, et qui nous est rapportée par l'imam At-Tirmidhi ainsi que l'imam Abu Daoud, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigner à ses compagnons ces formules. إذا أصبح أحدكم, lorsque l'un d'entre vous arrive au matin, فليقول, qu'il dise, اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons: au matin, que l'un de vous dise: ô Allah, par toi nous connaissons le matin, le soir, la vie et la mort. Vers toi est le rassemblement. Le soir, qu'il dise: ô Allah, par toi nous connaissons le soir, le matin, la vie et la mort. Vers toi est la destinée. Cette invocation est très importante. Elle est vraiment très importante. Elle est bénie. Le musulman doit l'apprendre et la prononcer chaque matin et chaque soir. Et il doit aussi en comprendre le sens. Celui qui médite le sens de cette parole va voir la soumission que va exprimer le serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala. اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منه وإكرامه. Dans cette formule, on trouve que le serviteur se remémore l'immense bienfait qu'Allah lui a octroyé et l'honoration, le cadeau qu'Allah lui a fait. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Lorsque l'homme dort, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il bouge, lorsqu'il se calme, quand il se lève et s'assoit, tout ceci il ne peut le faire que par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah a voulu sera, et ce qu'Allah ne veut pas ne sera pas. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Allahumma bika asbahna, Allahumma, nous l'avons déjà expliqué, ça signifie ya Allah, ô Allah, tu interpelles Allah pour le réclamer. Bika asbahna, bika asbahna, c'est-à-dire c'est par toi que nous arrivons au matin. C'est-à-dire, c'est par ton bienfait, par ton aide, que nous sommes arrivés au matin. Car lorsque tu arrives au matin, tu as passé une nuit. Dans cette nuit, tu as dormi, tu t'es reposé. Tu arrives au matin, le soleil va commencer à se lever. Ne vois-tu pas que tu es dans un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne vois-tu pas que beaucoup de gens sont morts la veille? Beaucoup de gens ont dit « à demain » et n'ont jamais connu le lendemain? Et toi, tu es vivant. Donc tu dis « ô Allah, c'est par toi que je suis vivant ce matin. » C'est-à-dire, c'est par ta grâce. « Wabika amsayna. » « Wabika amsayna. » Et c'est par toi que nous arrivons au soir. C'est-à-dire, c'est aussi grâce à toi que nous connaissons le soir. « Wabika nahya. » « Wabika namut. » Et c'est par toi que nous vivons et que nous mourons. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on ne cesse d'être reconnaissant envers toi. Et on ne cesse de reconnaître que c'est grâce à toi que nous bougeons, que nous vivons, que nous vaquons à nos occupations. Nous vivons par ta grâce et c'est toi qui décrètes notre mort. Subhanahu wa ta'ala. Tu maintiens toutes choses et tu décides de ce que tu veux. On ne peut en aucun cas se passer de toi, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car si c'est grâce à Allah que tu arrives au matin, au soir, que tu vis, que tu meurs, comment peux-tu te passer de lui? Un seul instant. Donc dans cette invocation, il y a la manifestation où tu manifestes la croyance que tu as, que tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis, wa ilayka an-nushur, et c'est vers toi que s'effectue le rassemblement. An-nushur, dans la langue arabe, c'est le déploiement, le fait de se déployer ou de s'éparpiller, de partir d'un endroit, de se déployer. Et parmi les jours, les noms du jour dernier, Yawm al-Nushur, le jour justement du déploiement. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Parce que quand l'ange va souffler dans la trompe, qu'est-ce que va-t-il se passer? Tous les corps vont se lever des tombes et ils vont tous se déployer et ils vont tous se diriger vers la terre où ils seront jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le serviteur arrive au matin, il dit toutes ces paroles, puis il dit c'est vers toi que s'effectuera ce rassemblement en question. Pourquoi? Quel est le lien qu'il y a entre le matin et le rassemblement du jour dernier? Qui va me le dire? Abdul Karim. Ça, c'est bon, mais il y a un manquement. Ahmed.
Parce que le sommeil, c'est une petite mort, en fait. Et on se réveille, en fait, une petite mort.
Le sommeil, c'est une petite mort. Et donc, on va se réveiller. On va arriver au matin. Qu'est-ce que les gens vont faire le matin? Ils vont tous sortir de chez eux. Certains vont aller travailler. D'autres vont vaquer à leurs occupations. Et ils vont se déployer. Eh bien, ce déploiement du matin rappelle le jour où on va être rassemblé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il convenait à ce moment-là d'employer le terme nushur, rassemblement ou bien déploiement. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qawluhu wa ilayka al-masir. Puis le soir, tu dis une autre parole. Ne vois-tu pas que tu ne dis plus wa ilayka al-nushur, le rassemblement? Tu dis plutôt wa ilayka al-masir. C'est vers toi que s'effectue, approximativement traduit, le retour, le fait de revenir. Pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que le soir on prononce cette parole?
On va mourir, on va dormir.
Parce que le soir, qu'est-ce que les gens font? Ils rentrent tous chez eux. Eh bien, le jour du jugement dernier est un jour où on reviendra tous à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir eu des activités dans la vie d'ici-bas. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna ila rabbika ruj'a. Le verset 8 de Sourate Al-Alaq, l'adhérence, c'est vers ton Seigneur que s'effectuera le retour. Donc vous comprenez pourquoi on dit le rassemblement le matin ou bien le déploiement et le retour lorsque nous parlons du soir. Allah Azza wa Jalla a dit Allahu yatawaffal anfusa hina mawtiha. Allah reprend les âmes au moment de leur mort. وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ فِي مَنَامِهَا. Et celles qui ne meurent pas, il les reprend au moment du sommeil. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتْ. Il garde les âmes de ceux à qui il a décrété la mort. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Et il renvoie les autres âmes vers un terme fixé. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a certes en cela des signes au pluriel, pour un peuple qui médite. Lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas dormir, Allah tabaraka wa ta'ala te reprend ton âme. Azza wa jal. C'est pour cela que les savants ont dit, le sommeil est une petite mort. Est une petite mort. Puis, pour certaines personnes, il rendra leur âme, et d'autres, il garde l'âme. Ceux à qui il va garder l'âme vont mourir. Et ceux à qui il va rendre l'âme vont se lever le matin. Donc quand elles vont se lever, quand ils vont se lever le matin, ils vont dire, car ils seront pleins de reconnaissance envers Allah, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur. Oh Allah, c'est grâce à toi que nous arrivons ce matin, le soir, c'est grâce à toi que nous vivons, c'est toi qui décrètes notre mort et c'est vers toi que s'effectue le retour. Et le fait d'arriver au soir ressemble à la mort, au retour. C'est pour cela qu'on a parlé de retour. وَمِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ النَّوْمِ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Et va éclaircir le sens de ce hadith, l'autre hadith dans les invocations du réveil. Qu'est-ce que tu dis en te réveillant? Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Vers lui est le retour. Donc dès que tu te réveilles, tu sens le bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ressentir ce bienfait au moment du réveil est une preuve du iman, est une preuve de la foi. Tu as passé des heures à dormir. Lorsque tes yeux s'ouvrent, la première chose à laquelle tu penses, c'est de remercier Allah car il t'a rendu ton âme. Si tu y arrives, c'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné son aide. Et il a voulu pour toi un grand bien. Car combien sont les gens qui vont dormir avec la dunya dans la tête et qui se lève avec la dunya dans la tête et le corps. Wal'iyadu billah. Combien sont les gens qui ne pensent pas à évoquer leur Seigneur en dormant ni en se réveillant? Et cette dua, cette invocation du réveil, va être expliquée dans le chapitre des invocations du sommeil et du réveil. Wa min adhkar al-sabahi wal-masa. Parmi les invocations à dire le matin et le soir, il y a celle-ci. Elle est rapportée par le compagnon Abu Bakr As-Siddiq, radiallahu anhu. On la retrouve dans le recueil de Tirmidhi, Abu Dawud. Elle est jugée authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. عندما سأله أن يرشده إلى كلمات يقولها كل صباح ومساء فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. أبو بكر رضي الله عنه va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire: ô messager d'Allah, enseigne-moi des paroles à répéter chaque matin et soir. Qala qul. Le prophète lui a dit: dis. Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghayb wal-shahada, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي رواية أخرى وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أبو بكر رضي الله عنه va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande de lui enseigner des paroles à répéter chaque matin et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis le matin: ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur du visible et de l'invisible, seigneur de toutes choses et détenteur, j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration que toi. Je cherche ta protection contre le mal de mon âme et le mal du démon, ainsi que son polythéisme. Également dans une autre version, il y a la continuité: pour que je ne commette aucun mal contre moi-même ou à l'encontre d'un musulman, dis cela le matin, le soir et lorsque tu vas au lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Abu Bakr radiallahu anhu. Encore une fois, une invocation de la plus grande importance. Il est recommandé aux musulmans de la prononcer chaque matin chaque soir et aussi au moment du coucher. Donc par jour, combien de fois ?
Trois fois.
On y retrouve la demande de refuge, la demande de protection à Allah Azza wa Jal contre tous les maux, contre la base de tous les maux et la fin de tous les maux, comme vous allez le voir en détail, inshallah ta'ala. Également, قَدْ بَدَأَهُ بِتَوَسُّلَاتٍ عَظِيمَةٍ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. On y trouve des manières, des formules pour solliciter Allah qu'on appelle tawassul. Tawassul, c'est le fait d'utiliser un moyen pour solliciter Allah Azza wa Jal. Parmi ces moyens, le fait de citer la perfection d'Allah, ses noms et ses attributs. C'est un moyen d'avoir la réponse à la demande qu'on va formuler à Allah Azza wa Jal. Donc toutes ces phrases de tawassul pour se rapprocher d'Allah, pour demander sa réponse, elles sont immenses dans leur sens, car elles décrivent Allah par sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Tu commences en disant Allahumma. Allahumma signifie « Oh Allah »,« Ya Allah ». فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق. Créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, toi qui créas les cieux et la terre sans précédent. Les cieux et la terre n'existaient pas avant qu'Allah ne les crée. Rien n'existait qui s'appelait ciel et terre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux. Les terres sont exemples. Il n'a pas eu besoin d'exemple. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de créer les cieux. Et il va les appeler les cieux. La terre, il va l'appeler la terre. Sans qu'on lui donne d'idée, sans qu'on l'aide, sans avoir besoin d'exemple, subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, vous voyez tout ce que vous voyez dans les cieux sur la terre. Il y a sept cieux et sept terres, comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et Allah tabaraka wa ta'ala au sujet des terres, dans la fin de surat, talaq, le divorce. Donc, imaginez-vous tout ce que vous voyez sur terre, et la terre elle-même, et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous tout ce que contient la terre. Imaginez-vous qu'il y en a sept. Voyez un peu la terre et tout ce qui s'y trouve, comme trésor, comme richesse, comme nourriture, comme médicaments dans la nature, comme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces cieux et ces terres seul, sans exemple précédent, subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois que quand tu vas réclamer Allah, en citant ces phrases, ce n'est pas comme si tu vas directement demander à Allah. Tu vas d'abord reconnaître la grandeur, la puissance, la capacité d'Allah, Azza wa Jal. Ça va te servir à te rabaisser devant Allah et à reconnaître que c'est lui le puissant. Allah va voir un serviteur qui s'humilie devant lui, qui reconnaît sa puissance. Cela va être plus prompt pour qu'Allah, Azza wa Jal, réponde à son appel. Alim al-ghaybi wa shahada, connaisseur du visible et de l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui est caché. Il connaît toutes choses, que ce soit des choses qu'on ne peut pas voir ou bien des choses qu'on peut voir. Et personne ne connaît l'invisible à part Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit dans les cieux et sur la terre, personne ne connaît l'invisible sauf Allah Azza wa Jal. Le seul qui connaît demain, c'est Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, on voit des gens qui vont chez les voyants, qui vont chez les sorciers, qui vont leur demander: demain, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors que personne ne le sait, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas ce qu'il y a demain. Il est vivant et il ne sait pas ce qu'il y a demain. La preuve, il a été empoisonné, sallallahu alayhi wa sallam, en l'ancêtre de l'égir. Une femme lui a mis du poison dans de la viande, une femme juive, et lui a donné. S'il sait ce qu'il y a demain, et il connaît l'avenir, pourquoi il a pris cette viande et il l'a mis dans sa bouche, et il a été empoisonné, alayhi salatu wassalam. S'il sait ce qu'il y a demain, pourquoi dans la bataille de Uhud, les ennemis ont réussi à lui faire couler le sang? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a demain. Personne ne sait ce qu'il y a demain. Toutes les personnes qui disent connaître l'avenir ne sont que des mécréantes. Jamais un croyant dit qu'il connaît l'avenir. Et jamais un croyant croit que quelqu'un connaît l'avenir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, que celui qui va voir un voyant, les sorciers, les gris-gris, les marabouts, toutes ces choses-là, dans nos pays et dans les autres pays, il dit, celui qui va voir le sorcier et qui lui demande quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il aura mécru à ce qui a été révélé à Muhammad, alayhi salatu wa salam. Regardez ici, le prophète alayhi salatu wa salam demande à Allah. C'est le prophète qui demande à Allah. Qu'est-ce qu'il dit? عالم الغيب والشهادة. Toi qui connais le visible et l'invisible. Il n'y a qu'Allah qui connaît, subhanahu wa ta'ala. رب كل شيء ومليكه. Le Seigneur est le détenteur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allahu Rabbu kulli shay. La yakhruju shay'un 'an rububiyyatihi. Rien ne peut sortir de la seigneurie d'Allah, azza wa jalla. Nous sommes tous les esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si l'individu est mécréant, il n'est qu'un esclave d'Allah. Quand il a soif, il est obligé de boire l'eau qu'Allah lui a créée. Quand il est malade, il est obligé d'avaler ce qu'Allah lui a créé. Quand il a faim, il est obligé de manger ce qu'Allah lui a créé. Il ne pourra pas fuir un univers qui n'appartient pas à Allah, Azza wa Jal. Nous sommes tous des esclaves d'Allah, de plein gré ou de mal gré. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit dans le verset, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront soumis au tout miséricordieux. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهو المالك لكل شيء. Et c'est le détenteur et le possesseur de toutes choses. فهو سبحانه رب العالمين. وهو المالك للخلق أجمعين. C'est lui le Seigneur des mondes et le possesseur, Azza wa Jal. Ensuite, après cela, ثُمَّ أَعْلَنَ بَعْدَ ذَلِكَ تَوْحِيدَهُ وَأَقَرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَأَنَّهُ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Après cela, tu vas encore reconnaître l'unicité d'Allah, Azza wa Jal, puisque tu vas dire, Ashhadu an la ilaha illa ant. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. Effectivement, si tu es le seul, ô Allah, à créer les cieux et la terre, à posséder les cieux et la terre, à connaître le visible et l'invisible, tu es le seul qui a le droit à l'adoration. Quand j'invoque, quand je demande, je ne dois demander qu'à toi. Je ne dois pas demander ni à un prophète, ni à un ange, ni à un pieux, ni à un saint, ni à un wali, ni à une tombe, ni à rien du tout. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah azza wa jal. Est-ce que celui à qui ces gens demandent en dehors d'Allah a créé, est-ce qu'ils ont réussi à créer? Est-ce que c'est eux qui ont donné la vie et la mort? Allah azza wa jal a dit dans le Coran, dans surat Fatir, le créateur, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, tous ceux à qui il demande en dehors d'Allah, que ce soit les gens dans les tombes, dans nos pays, les gens dans les tombes, ou bien les sorciers, ou bien toutes ces choses-là, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Allah Azza wa Jalla a dit, il ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. La date que tu manges, quand tu fais siyam, le jeûne, tu manges une date. Quand tu as fini la date, qu'est-ce qu'il reste? Un noyau. On ne parle même pas du noyau. On parle de la pellicule qui est sur le noyau. La pellicule qui ressemble à un petit morceau de plastique ou de papier. Eh bien, même ça, il ne la possède pas. Allah Azzajal a dit, « In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. » Si vous les invoquez, ils ne peuvent pas entendre votre demande. « Walau sami'u mastajabu lakum. » Et même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. « Wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. » Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre polythéisme. Ils diront, je n'ai rien à voir avec lui, ya Allah. Et alors les gens se retrouveront tout seuls. Wal'iyadu billah. Donc, tu dis, ashhadu an la ilaha illa ant. J'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration que toi. Toutes ces paroles précèdent la demande. Donc à chaque fois, tu vois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va demander à Allah, il commence d'abord à dire « Oh Allah, c'est toi qui es parfait, c'est toi notre créateur, c'est toi qui possède tout, tu es parfait, tu n'as aucun défaut. » Et ensuite, il va demander, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, quand il invoque Allah, il ne doit pas directement demander. Il lève la main, il demande. Au minimum, il dit « Alhamdulillah ». Au minimum. Ensuite, il prie sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, ala rasulillah. Ensuite, il demande pardon à Allah, astaghfirullah. Ensuite, il demande ce qu'il veut. Ça, c'est le minimum à faire et à connaître. Puis, la demande arrive. Quelle est cette demande? A'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytan wa shirki. C'est-à-dire, je cherche ta protection contre le mal de mon âme et le mal du diable, ainsi que de son polythéisme. Le cheikh a dit « وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ التَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْ أُصُولِ الشَّرِّ وَمَنَابِعِهِ وَمِنْ نِهَايَاتِهِ وَنَتَائِجِهِ » Dans cette phrase, malgré le fait qu'elle est courte, il y a beaucoup de choses. Car en réalité, il y a la base du mal, la fin du mal, il y a la base du mal, la fin du mal et la source de tous les maux. Subhanallah. Avec une phrase, tu as demandé à Allah Azza wa Jal, si tu invoques comme la sunna, pas comme les innovateurs, tu invoques comme ce que tu vois dans les hadiths, car c'est là qu'il y a la baraka. Il dit que tu as demandé la protection d'Allah contre tous les maux qui existent. Subhanallah. Comment? Voici l'explication. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, le grand savant, a dit dans l'explication de ce hadith, فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْدَرَيْ الشَّرِّ وَهُمَا النَّفْسُ وَالشَّيْطَانِ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans cette formule les deux bases du mal. Quelles sont les deux bases du mal? Le nafs, l'âme de la personne, et الشيطان, le diable. Quand tu vas faire un mal, soit parce que le diable t'a incité, soit parce que ton nafs, ton âme penche, ton ego penche vers le mal. وَذَكَرَ مَوْرِدَيْهِ وَنِهَايَتَيْهِ وَهُمَا عَوْدُهُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ Donc ici on a les deux bases du mal. Et ensuite on a les deux finalités du mal. Quelles sont les deux finalités du mal? Soit tu vas te faire du mal, soit tu vas faire du mal à quelqu'un. Donc il y a les bases et les finalités des mots. Quelles sont les bases des mots? Le nefs, l'âme et le diable. Si tu suis ces mots, où est-ce que tu vas arriver? Tu vas faire du mal à ton nefs ou aux autres. Et c'est ce que tu retrouves dans cette invocation. Je cherche ta protection contre le mal de mon âme et le mal du démon, ainsi que son polythéisme, pour que je ne commette aucun mal contre moi-même ou à l'encontre d'un musulman. Car si tu suis le mal du diable ou de toi-même, finalement, tu vas te faire du mal. Et si tu ne te fais pas du mal à toi, tu vas en faire à un musulman. Donc dans cette invocation, tu as demandé à Allah de te protéger contre tous les maux. les deux sources du mot et les deux finalités du mal, pardon. فجمع الحديث مصادر الشر ومواردها في أوجز لفظة وأخصرها وأجمعه وأجمعه وأبينه وأجمعه وأخصره وأجمعه وأبينه. Nous trouvons donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uni dans ce hadith les sources des mots aux finalités des mots avec des phrases qui sont les plus courtes. فالحديث فيه تعوذ بالله عز وجل من أربعة أمور تتعلق بالشر. Nous trouvons donc dans ce hadith la demande de la protection d'Allah contre quatre mots qui sont les suivants. الأول, le premier, شر النفس, le mal de l'âme. وشر النفس يولد الأعمال السيئة والذنوب والآثام. Le mal de l'âme donne naissance au péché et à la désobéissance. Deuxièmement, وثاني, شر الشيطان, le mal du diable. وعداوة الشيطان للإنسان معلومة بتحريكه لفعل المعاصي والذنوب وتهييج الباطل في نفسه وقلبه. Et le mal du diable est connu, l'animosité que le diable a envers le fils d'Adam est connue puisqu'il l'excite et le pousse à commettre le mal. Troisièmement, pardon, avant d'entrer dans le troisième mal, lorsqu'on voit dans la parole que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa shirki, je cherche ta protection contre le mal de mon âme et le mal du démon ainsi que de son polythéisme. » Quel est le plus grand mal auquel t'appelle Iblis, Ash-Shaytan? Le polythéisme, la mécréance. D'associer à Allah, d'adorer un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, dans cette invocation, tu as demandé à Allah de te protéger du shirk. Car le croyant a toujours besoin de demander à Allah de le protéger du polythéisme. Car nombreux sont les gens qui tombent dans le polythéisme. Cette version a été aussi rapportée avec wa sharakihi au lieu de dire wa shirkihi, wa sharakihi. Alors sharakihi aura le sens de le filet, c'est-à-dire je te demande la protection de tomber dans le filet de Shaytan. Le filet, c'est-à-dire de le suivre, tomber dans son piège. Troisième mal que nous retrouvons dans ce hadith, iqtiraful insani su'a ala nafsihi. وهذه نتيجة من نتائج الشر عائدة إلى نفس الإنسان. Le fait que l'individu fasse un mal à sa propre personne, et ceci est le résultat du mal, et il revient à la personne elle-même. Quatrième mal que nous retrouvons dans le hadith, donc le troisième, c'est le mal que l'individu va se faire à lui-même. Quatrième mal que nous retrouvons dans le hadith, جر السوء على المسلمين وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشر عائدة إلى الآخرين. C'est le fait d'attirer un mal aux musulmans, et ceci est encore le résultat du mal, mais ce mal va toucher les autres. وقد جمع الحديث التعوذ بالله من ذلك كله فما أجمعه من حديث وما أعظم دلالته وما أكمل إحاطته بالتخلص من الشر كله. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uni la demande de protection d'Allah contre ces quatre mots. C'est-à-dire qu'il demande à Allah de le protéger contre les deux sources de mal et les deux finalités du mal. Les deux sources, le mal du nefs, le mal du diable. Les finalités, soit tu fais du mal à ta personne, soit tu fais du mal à autrui. Et avec cette invocation, si Allah t'exauce, il te préservera, bi'idhnillahi ta'ala, de tout cela. Parmi les invocations à prononcer le matin,
assalamu alaykum wa rahmatullah.
Parmi les invocations à prononcer le matin et le soir, il y a l'invocation que nous retrouvons dans le recueil de Abu Daoud et celui d'Ibn Majah et autres, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. L'imam al-Albani rahimahullah a jugé authentique cette formule d'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas ses invocations le soir venu ou le matin. Ô Allah, j'implore ton pardon et ta grâce dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, j'implore ton pardon et ta grâce dans ma religion et en ce monde, dans ma famille et ma fortune. Ô Allah, dissimule mes défauts et apaise mes frayeurs. Ô Allah, protège-moi, devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Je cherche protection auprès de ta majesté contre ceux qui me surprendraient par en dessous. Subhanallah, méditons un peu cette invocation et voyons combien elle est importante. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a débuté cette invocation en demandant à Allah ce qu'on appelle العافية dans ce bas monde comme dans l'au-delà. والعافية لا يعدلها شيء. Rien n'est égal à ce qu'on appelle en arabe العافية que vous allez entendre. Rien n'est égal à العافية. ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فَقَدْ كَمُلَ نَصِيبُهُ مِنَ الْخَيْرِ. Celui à qui on aura donné cette afia dans ce bas monde et dans l'au-delà aura reçu la plus grande part de bien. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte, selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « قلت يا رسول الله, j'ai dit au messager d'Allah, علمني شيئا أسأله الله عز وجل. Enseigne-moi quelque chose que je demanderai à Allah. » Azza wa Jal. Qala salillah al-afiyah. Le prophète lui dit, demande à Allah al-afiyah. Famakathtu ayyaman. Des jours sont passés. Thumma ji'tu faqultu ya Rasulallah, allimni shay'an as'aluhu Allah. Je suis revenu au prophète et lui ai dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi des choses que je demanderai à Allah. Faqala li ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Le prophète a dit, ô Abbas, ô toi l'oncle du messager d'Allah, demande à Allah l'afiyah dans ce bas monde et dans l'au-delà. On pourrait traduire l'afiyah par le salut. Le salut. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Wa fil musnad wa sunan al-Tirmidhi an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal. Le prophète a dit alayhi salatu wa salam, سل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. Demandez à Allah de vous accorder le pardon et le salut, العافية. Car aucune personne n'aura reçu après la certitude meilleur que le salut. والعفو, ce qui est voulu par العفو. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ce qui est voulu par al-afu, qui est le pardon, huwa mahwu adh-dhunubi wa sitruha. C'est le fait d'effacer les effets des péchés et d'en couvrir les défauts. C'est-à-dire que tu commets des péchés, wallahu ya'fu ank. Et Allah te couvre ces péchés. Et il te couvre, subhanahu wa ta'ala, il t'efface ces péchés. والعافيه, ce qui est voulu par العافيه, هي تامين الله لعبده من كل نقمه ومحنه. بصرف السوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام وحفظه من الشرور والآثام. العافية, ce qu'on a traduit par le salut, c'est qu'Allah Azza wa Jal te mette en sécurité d'être atteint d'un mal, d'un trouble, ceci en t'éloignant de tout ce qui pourrait te causer du tort et en te préservant des maladies, des maux, dans toutes leurs sortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah dans cette invocation de lui accorder l'afia, le salut, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il lui a demandé le salut dans la religion, dans ce bas monde, dans sa famille, dans ses richesses. Quant au fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala le salut, l'afia, dans la religion, c'est-à-dire que c'est le fait de lui demander de protéger le serviteur contre tout ce qui pourrait entacher la foi et la religiosité de ce serviteur. Le salut dans ce bas monde, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal te préserve contre toute nuisance par laquelle on pourrait t'atteindre, que ce soit une calamité, un mal, une épreuve et autres. Le fait de demander le salut d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, fil akhira, c'est de lui demander la protection contre les différentes situations tout aussi dangereuses les unes que les autres que les gens vont rencontrer devant Allah, qui sont les punitions d'Allah et autres. Le fait de demander à Allah Azza wa Jal le salut dans la famille, c'est le fait de demander à Allah de les protéger contre les troubles, les épreuves, les discordes, les tentations et autres. Le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder le salut dans la richesse, c'est de préserver cette richesse afin qu'elle ne s'use pas, afin qu'elle ne soit pas détruite, afin qu'elle ne soit pas brûlée, afin qu'elle ne soit pas volée. Voyez un peu tout ce qu'on demande ici à Allah subhanahu wa ta'ala avec quelques phrases, chaque matin et chaque soir. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui tous les matins dit Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Il demande à Allah Azza wa Jal l'afiya, le salut dans ce bas monde, dans son din, dans sa santé, dans son argent, dans sa famille, et Allah lui donne. Imaginez-vous un peu comment il va être si Allah tabaraka wa ta'ala lui donne tout ce qu'il lui a demander. A terminé. Inch'Allah ta'ala. Wa qawluhu Allahumma astur awrati. Lorsque tu dis oh Allah, dissimule mes défauts. Al-awra, c'est la nudité à la base. Quand quelqu'un est nu, on appelle ça al-awra. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle awra ici? Car c'est toute personne n'accepte pas qu'on la voit nue. C'est pareil pour al-uyub, les défauts. Les gens ne veulent pas qu'on voit leurs défauts. Donc tu demandes à Allah, tatloub Allah Azza wa Jal an yasturak. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te couvre, qu'il te cache justement ses défauts. Ay uyubi wa khalali wa taqsiri, les manques que tu as eu, le manque que ce soit dans ta religion, dans ton comportement. Et tu demandes à Allah aussi qu'il préserve ta aura véritablement, ta nudité. Et la aura pour l'homme, c'est du nombril, surra, jusqu'au genou. Et la rukba, ça, l'homme n'a pas le droit de le montrer. C'est interdit. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la femme, c'est la plupart de son corps. وحري بالمرأة أن تحافظ على هذا الدعاء. Et la femme doit aussi préserver et être abondante dans cette invocation. Inch'Allah, 2 minutes. Bidnillah. Et plus particulièrement dans cette époque où les femmes se dévoilent et se découvrent. طيب. Ensuite, wa amin rawati, et apaise mes frayeurs. Wa min al-amni didd al-khawf, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal de tranquilliser le serviteur qui est paniqué. والروعات جمع روعة وهو الخوف والحزن. ففي هذا سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه. Donc on voit dans cette partie de l'invocation qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger contre toute chose qui pourrait effrayer. Toute chose qui pourrait effrayer. وقوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Oh Allah, protège-moi devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi. Je cherche ta protection auprès de ta majesté contre ceux qui me surprendraient par en dessous. Tu vois que tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger du mal qui pourrait venir de tous les côtés. Le mal, il peut venir par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, par en haut et par en dessous. Et bien dans cette invocation, tu as demandé à Allah Azza wa Jal de te protéger du mal et de tous les endroits d'où le mal pourrait te toucher. Et c'est donc une grande invocation que le musulman doit connaître. Le musulman a besoin constamment de demander à Allah Azza wa Jal qu'il le préserve du shaitan. Car le shaitan cherchera toujours à l'égarer et à lui faire du mal. Allah Azza wa Jal a dit que Iblis a dit: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Puis je viendrai à eux, tu me trouveras devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu verras que la plupart d'entre eux ne seront pas reconnaissants. وَقَوْلُهُ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. Puis la fin, lorsque tu dis: je cherche protection auprès de ta majesté contre ceux qui me surprendraient par en dessous, tu vois que al-bala, c'est-à-dire ceux qui pourraient te surprendre, tu vois que ceux qui pourraient te surprendre, ceux qui pourraient t'atteindre comme mal, pourraient venir et pourraient t'atteindre par en dessous, comme nursaf bikal ard, le fait d'être englouti dans la terre. Et parmi les ennemis d'Allah, parmi ceux qui ont désobéi, il y a des gens qui ont été engloutis dans la terre. Et Allah Azza wa Jalla a dit, le verset avec lequel on terminera: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Nous reprîmes chacun pour son péché. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. À certains, nous envoyâmes une pluie de pierres. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. D'autres ont été pris par un cri. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. D'autres ont été engloutis sous la terre. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَا. Et d'autres ont été noyés. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Et Allah ne va pas ou n'est pas injuste envers eux. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est ainsi que le cours d'aujourd'hui s'achève. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.